News FM, la radio du bassin grenoblois.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La Voix de l'Emploi. Avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans La Voix de l'Emploi, votre émission sur l'emploi sous toutes ses formes. Première émission de rentrée, hein, après cet été particulièrement chaud. J'espère qu'il s'est bien déroulé quand même pour vous toutes et tous. Alors, nous reprenons donc ces thématiques liées à l'emploi avec La Voix de l'Emploi en direct sur News FM. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous tourner un peu plus vers un organisme qui s'appelle l'école de la deuxième chance. Donner une nouvelle chance à des jeunes entre 16 et 25 ans, éloignés de l'emploi et pas ou peu qualifiés, telle est la mission que s'est donnée le réseau des écoles de la deuxième chance, ou E2C pour faire plus court. Et l'E2C, c'est aujourd'hui un réseau national, métropole et DOM-TOM, c'est important de le préciser, qui réunit 146 écoles et forme plus de 15 000 jeunes chaque année. Chez nous en Isère, il y a trois écoles de la deuxième chance qui se sont créées depuis 2009, un site à Vienne, un autre à Voiron et le plus ancien donc de 2009, l'école de la deuxième chance de Grenoble. Et c'est Corentin Ami, le directeur de l'E2C Grenoble, qui a répondu à notre invitation aujourd'hui. Bonjour Corentin.
Bonjour à toutes et à tous.
Et Corentin, bah, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes accompagné de quatre jeunes qui ont soit terminé un parcours à l'école de la deuxième chance ou qui sont sur le point de terminer. On le verra puisque Linda, notamment, hein, l'un des jeunes qui sont venus aujourd'hui, c'est sa dernière journée, sa dernière après-midi à l'E2C. Voilà, donc soit des anciens stagiaires, soit stagiaires en cours qui apporteront leur témoignage. Donc bonjour à tous les quatre, mais je peux déjà vous présenter quand même. Hein. Donc nous avons Linda, Kautar, Clément et Tarek. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté cet exercice un petit peu stressant quand on n'a pas l'habitude de venir au micro. Alors Corentin, on va commencer par le commencement évidemment et puis on va même faire un petit voyage dans le temps parce que je disais 2009 c'est l'année où l'école de la deuxième chance Grenoble s'est créée. 2011 hein, c'est ça, c'est pour le site de Voiron et de Vienne.
Tout à fait.
Mais on peut encore remonter plus loin parce que si j'ai bien appris ma leçon en allant voir un peu votre site web, il faut remonter à 1995 pour avoir les prémices de ce concept d'école de la deuxième chance.
Tout à fait. C'est Edith Cresson, du temps où elle était en poste à la Commission européenne, qui a travaillé sur un concept d'école de la deuxième chance qui recelait plusieurs principes. Le premier, c'était de travailler sur une pédagogie active qui mette les stagiaires dans une situation d'apprenants engagés dans leur parcours de formation. Le deuxième principe, c'était d'intégrer des entreprises dans le processus pédagogique d'acquisition de compétences et d'insertion professionnelle. Et le troisième principe pédagogique, qui était en fait le fondement même de sa réflexion, c'était de faire plus pour les publics qui décrochent de l'école, pour les publics les moins favorisés, quel que soit le secteur dans lequel ils sont défavorisés, mais en tout cas de faire plus que les acteurs qui étaient à l'époque existants. A priori, en 1995, il manquait une étape intermédiaire entre l'éducation nationale et les acteurs de la réinsertion. Et donc, Edith Cresson a poussé pour qu'un dispositif comme les écoles de la deuxième chance puisse voir le jour.
Alors, je l'ai dit en introduction, c'est un grand réseau national présent également dans les départements et territoires d'outre-mer. Donc, 146 écoles, ça n'a pas évolué le chiffre depuis.
Non.
Il est à jour donc sur le site.
Il est à jour et il progresse d'année en année. On raisonne en fait en écoles et en sites. Aujourd'hui, le territoire national métropolitain et ultramarin est couvert par 55 écoles différentes. Et ces 55 écoles différentes maillent le territoire sous différents sites. Et c'est là qu'on arrive à 146 sites en Isère. Nous avons une école, qui est l'école de la deuxième chance Isère, avec trois sites qui appartiennent à la même structure. Un site, comme vous l'avez dit, à Voiron, un site à Vienne, et donc le plus ancien et le premier site en Isère à Grenoble.
Alors si on se concentre sur Grenoble, hein, puisque notre radio couvre l'agglomération, la grande agglomération grenobloise, au jour d'aujourd'hui, c'est combien de jeunes? Alors on dit stagiaires, on ne dit pas élèves?
On dit stagiaires, effectivement, puisque les jeunes qui bénéficient de l'école de la deuxième chance ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
D'accord.
À ce titre-là, et on y reviendra, mais ils sont indemnisés par le conseil régional qui porte la compétence de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, à l'EDEC sur Grenoble, on a une soixantaine de jeunes qui sont actuellement en centre de formation. Sur une année, c'est environ 200 jeunes qui fréquentent le centre de formation de Grenoble, avec un système d'entrée et de sortie permanente, ce qui fait qu'on n'a jamais 200 jeunes à un instant T sur le site, mais que le système d'arrivée et de départ échelonné tout au long de l'année fait qu'on arrive à atteindre environ 200 jeunes sur le site de Grenoble. À l'échelle départementale, on est autour de 300 jeunes qui sont accompagnés chaque année par le EDEC Isère.
Ça dure combien de temps un passage en école de la deuxième chance?
Un parcours type, c'est 9 mois à l'EDEC Isère.
D'accord, c'est juste une année, voilà, pas plus.
Tout à fait.
Un peu moins.
Sachant qu'en moyenne, aujourd'hui, les stagiaires que l'on accompagne restent entre 6 et 7 mois, puisque dès lors qu'une solution est trouvée pour chacun et chacune d'entre eux, soit en emploi, soit en formation, le parcours à l'EDEC s'arrête. Et c'est l'autre solution, un peu plus positive et structurante encore que l'est l'EDEC, qui prend le relais et qui permet d'enchaîner sur un autre dispositif. Donc aujourd'hui, on est à 6,5 mois de moyenne, de parcours moyen.
Et ça respecte une année scolaire type? Donc on commence en septembre, on finit en juin?
Non. je le disais tout à l'heure en préambule, le principe des entrées-sorties permanentes fait qu'aujourd'hui, sur chacun des sites de ces Isère, nous avons une entrée par mois. Donc en tout, 12 entrées, par exemple, pour le site de Grenoble. Chaque mois, un nouveau collectif de jeunes, entre 8 et 12 stagiaires, intègre le dossier et démarre un nouveau parcours. Ce système-là, il est fait pour coller au plus près des envies, des attentes, des besoins des jeunes qui ont décroché du système scolaire, mais aussi pour nous permettre, je pense qu'on y reviendra, de travailler sur l'individualisation et la personnalisation du parcours, de démarrer avec des petits collectifs qui s'enchaînent les uns après les autres, nous permet vraiment d'être au plus près des besoins et d'ajuster les contenus pédagogiques qui sont proposés.
Est-ce que ça fonctionne en classe également, donc en groupe de 20-30 jeunes?
On distingue deux périodes sur un parcours à l'EDEC. On a ce qu'on appelle la période d'intégration, qui est sur le démarrage du parcours, où là, effectivement, le collectif de jeunes qui a intégré l'EDEC va passer 5 semaines ensemble. Ces 5 semaines nous permettent de travailler à la fois de mieux connaître leur niveau scolaire, de savoir les points que l'on va devoir travailler dans la suite du parcours, de déceler déjà quels sont leurs domaines de compétences et les sujets que l'on va avoir à travailler, de travailler aussi la question des savoir-être, de la relation à l'entreprise et de quel est leur environnement qui va être parfois facilitant pour leur insertion, parfois bloquant. Et puisque l'on propose un accompagnement global, l'enjeu c'est qu'on puisse cerner assez rapidement qu'est-ce qui peut bloquer dans un parcours d'insertion et que l'on va devoir débloquer tout au long du parcours à l'EDEC. Donc pendant ces 5 semaines, le collectif est vraiment ensemble. Ensuite, une fois passées ces 5 semaines, si le parcours se poursuit, les jeunes sont intégrés à l'ensemble des stagiaires qui sont présents en centre. C'est-à-dire qu'ils intègrent ensuite des groupes qui vont être variables d'une semaine à une autre. On n'a pas un système de classe qui va se suivre du premier jour au dernier jour, mais on travaille vraiment sur de la mixité des publics, les domaines de compétences qui sont utiles au projet professionnel des jeunes, les projets thématiques qu'ils vont avoir envie de suivre, et puis les ateliers de remise à niveau sur les savoirs de base qui sont aussi nécessaires pour leur permettre d'obtenir le projet professionnel qu'ils visent.
Alors comment ça se passe quand un jeune va intégrer une école de la deuxième chance? D'abord, est-ce qu'il doit être orienté par un travailleur social, enfin un service ou Pôle emploi ou une mission locale? Ou est-ce que ça peut se faire aussi librement un jeune peut venir, que ce soit accompagné de sa famille ou seul.
Les deux modalités sont possibles. Aujourd'hui, on a environ la moitié des jeunes qui intègrent l'E2C qui sont orientés ou prescrits par une mission locale ou par Pôle emploi, en règle générale. Ça arrive aussi de manière marginale, que ce soit des acteurs plutôt du monde de la prévention ou des structures socio-éducatives. Et on a 50% d'autres qui poussent la porte spontanément de l'E2C, soit parce qu'ils nous ont connus par le biais de leur famille, soit parce qu'ils nous ont connus par le biais de leurs amis, soit parce qu'ils nous ont connus par le biais de structures qu'ils peuvent fréquenter, mais ils n'ont pas forcément été prescrits ou accompagnés. Les deux modalités sont possibles, et on accepte bien évidemment l'ensemble des jeunes qui poussent la porte de l'E2C. En termes de processus d'intégration, un jeune qui souhaite rentrer à l'E2C se présente sur ce qu'on appelle une information collective.
C'est une réunion collective
où qu'on organise les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 13h30 sur notre site de Grenoble. On va leur présenter le fonctionnement général et les contenus pédagogiques qui sont proposés à l'E2C. Ensuite, les jeunes sont attendus sur un entretien individuel de motivation. On va leur présenter plus en détail à quoi correspond un parcours. On va pouvoir échanger vraiment sur leur réelle motivation à intégrer notre centre de formation. Si ensuite ces deux étapes-là sont conformes et menées à leur terme, ensuite on programme une entrée sur l'une des dates à venir de nouveau démarrage de formation sur le site de Grenoble.
Vous demandez aux stagiaires d'être totalement libres de leur temps. Il faut qu'ils consacrent tout leur temps à leur passage à l'école de la deuxième chance, ou ils peuvent faire quelque chose d'autre à côté.
Un parcours de formation à l'E2C, c'est un parcours qui est intensif, qui dure 6 mois et demi, 7 mois, on l'a dit tout à l'heure, mais qui est par contre très engageant et impliquant pour le stagiaire. La règle, c'est que le stagiaire va passer 30 heures par semaine en centre de formation, et lorsqu'il est en stage en entreprise, il va y passer normalement 35 heures par semaine, soit un temps plein. Donc, pour mener à bien ce parcours qui, encore une fois, demande de l'investissement, demande de l'énergie, de la disponibilité, il est bien évident qu'un stagiaire doit être disponible pour suivre ce parcours.
Alors j'ai envie tout de suite de me tourner vers nos quatre jeunes témoins, juste pour savoir, dans un premier temps, hein, puisque je l'ai annoncé à vous que j'ai dit, je ne l'ai pas dit aux auditeurs, on fera une pause musicale et dans la dernière demi-heure de l'émission, c'est là où vous prendrez beaucoup plus la parole pour nous parler de vos parcours et de vos projets professionnels. Mais tout de suite, là, j'ai envie de savoir, justement, on évoquait comment un jeune peut intégrer l'école de la deuxième chance. Comment est-ce que vous, chacun d'entre vous, vous avez eu connaissance de l'existence de cette structure, Linda? Ça s'est passé comment?
Moi, par exemple, c'est une personne que je connais qui m'a présenté l'école, qui m'a dit que c'était rémunéré, que j'avais besoin un peu d'argent, comme ça, pour m'amuser. Du coup, je voulais voir à quoi ça ressemblait, et comme j'avais quitté le système scolaire, j'y suis allée.
Parce que tu as quel âge, si je peux me permettre de demander aux demoiselles, hein?
J'ai 17 ans.
17 ans. Donc, tu avais quitté au lycée, au niveau lycée?
C'est ça.
Tu as arrêté quoi, au niveau seconde?
Première.
Et la personne qui t'en a parlé, elle en avait eu connaissance comment?
Elle est en partenariat, je dirais, avec l'école.
D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que tu as su que ça existait, tu es allé voir, tu es allé te renseigner, et ça t'a intéressé. Pourquoi ça t'a intéressé? Qu'est-ce qu'on t'a dit qui a fait que, c'est peut-être pour moi cette école?
Parce qu'elle présentait beaucoup d'avantages, comme par exemple les stages. J'ai pu découvrir, par exemple, le stage de la boulangerie, à la boulangerie Ange. Et ça m'a permis de prendre plus confiance en moi et de prendre plus d'initiatives.
D'accord. Et pour toi, Kaouta?
Pour moi, j'ai connu l'E2C à travers la famille. Et ce qui m'a poussée à m'inscrire, c'est le fait de pouvoir tester et faire des stages pour savoir si entamer cette voie ou pas. Par exemple, j'ai fait un stage dans une pharmacie. J'étais convaincue au début que c'était pour moi, mais après 2 semaines, je me suis rendue compte que ça ne me correspondait pas comme métier. Et j'ai trouvé cet aspect-là intéressant, de pouvoir vraiment voir à quoi ça ressemble un métier sur le terrain.
D'accord. Clément, comment ça s'est passé pour toi?
Alors moi, j'ai connu par un membre de ma famille qui m'en a parlé. Et en fait, j'avais besoin de vraiment revenir dans un cadre de vie actif, en plus d'avoir une rémunération et de mettre à bien des projets professionnels. Parce que j'ai eu fait de l'intérim, je sais que c'est plus ce que je veux faire. Donc j'ai besoin de trouver un domaine qui me correspond sans diplôme.
Rapproche-toi bien du micro. Pardon. T'es un petit peu loin.
Et donc ça m'a vraiment permis de pousser un projet professionnel, me rendre compte que finalement c'est pas ça que je voulais faire, et au final de trouver ce qui me correspondait vraiment et d'aller à terme vis-à-vis de ça.
Au moment où vous avez intégré, donc là, je reviens aussi sur Kautar, quand vous avez intégré l'école de la deuxième chance, vous aviez terminé un parcours déjà scolaire ou professionnel. C'est à quel moment de votre vie que c'est arrivé ?
Alors, c'est arrivé quand j'ai déménagé de l'Italie. Je venais d'avoir mon bac en tourisme et langue. J'ai changé de pays et ça faisait déjà 2 ans que je me suis inscrite à un BTS banque et assurance. Et vu que j'étais nouvelle en France, j'étais pas vraiment à l'aise en français, j'avais pas beaucoup de connaissances et du coup, j'ai pas trouvé un patron pour mon alternance. Et du coup, j'ai raté mon année. Et j'ai entendu parler de l'EDC qui aidait à trouver sa voie. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas tester. Et ça a vraiment marché pour moi.
D'accord. Et Clément, donc toi, pareil, c'était tu étais sorti du système scolaire ou universitaire ou
moi, j'ai arrêté boulot. Les cours à 17 ans en terminale.
D'accord.
Et ensuite, du coup, à 18 ans, j'ai cherché du travail jusqu'à début 2022 où j'ai entendu parler de l'EDC et où ça s'est fait assez vite parce que ça me correspondait avec mes projets. Quoi.
D'accord. Et Tarek, explique-nous donc. Alors, rapproche bien aussi le micro. Comment tu as eu connaissance de l'EDC ?
J'ai connu l'EDC lorsque j'étais encore en Algérie, car j'étais en échec scolaire là-bas, et on préparait notre venue en France. Mmh. Et mon oncle m'avait parlé que si je venais en France, on allait m'inscrire à l'EDC parce que ça va m'aider à trouver un projet et faire une base pour continuer là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai connu.
D'accord.
C'est grâce à ma famille.
Mais un oncle qui était déjà en France.
Ouais, qui était juste à côté. C'est pour ça qu'il connaissait.
C'est pas un oncle d'Algérie qui connaissait l'EDC, parce que sinon ça veut dire ça rayonne l'EDC, on la connaît à l'étranger.
Non, c'est quand j'étais encore en Algérie, lui il habite juste à côté, du coup il connaissait et il a dit que ça m'irait bien.
Très bien. On revient avec Corentin pour continuer un petit peu les explications, donc dans un ordre un peu chronologique. Donc voilà, un jeune a entendu parler de l'EDC, il est allé à une réunion d'information, ça l'intéresse, ça lui plaît. On a vu, les parcours sont assez variés, les âges aussi. Donc comment est-ce que l'école de la deuxième chance arrive à s'adapter et donc à personnaliser, individualiser l'accompagnement à tous les cas de figure au niveau de l'enseignement qui est fait, parce qu'après, quand c'est un système d'alternance, là, effectivement, dans le milieu de professionnel, avec un employeur, forcément, là, ça colle à l'âge et au projet professionnel. Mais quand il faut enseigner des choses, comment on fait ? Il y a une phase d'évaluation pour savoir ce qui manque aux stagiaires ?
Effectivement, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que l'EDC est ouverte à une diversité de publics. On accueille des jeunes, vous l'avez dit, mineurs, des jeunes majeurs, des jeunes qui maîtrisent la langue française, des jeunes qui ne la maîtrisent pas ou peu. On accueille des jeunes qui sont en situation de handicap et d'autres qui sont en situation valide. On a vraiment un spectre très large de publics accueillis à l'école de la deuxième chance. Un petit chiffre à titre d'exemple, en 2022, c'est 36 nationalités différentes qui se sont croisées à l'EDC Isère, ce qui en fait vraiment un lieu de brassage culturel et d'enrichissement réciproque qui est vraiment un des principes sur lesquels on ne déroge pas et qui nous est cher. Pour répondre à votre question sur l'individualisation des parcours, vous avez raison, sur la première partie de leur parcours, nous réalisons des tests de positionnement, qui sont des tests où on va sur lesquels on va s'appuyer ensuite pour moduler les contenus pédagogiques. Un emploi du temps type d'un stagiaire à l'EDC quand il est en centre de formation, c'est des matins dédiés à ce que l'on appelle le parcours personnalisé, l'après-midi, des temps dédiés à des projets thématiques. Les matins dédiés au parcours personnalisé, ce sont des temps où chaque stagiaire dispose d'une feuille de route avec des exercices à réaliser, des domaines de compétences à travailler, des sujets à pousser qui sont définis par son référent et lui-même et qui vont être mis en œuvre tout au long de la semaine. malgré cela, les stagiaires sont en collectif. Donc on a vraiment cette notion de collectif qui est primordiale à l'E2C, et une grande partie des contenus pédagogiques sont dispensés de manière collective. Mais dans ces temps collectifs, on intègre des exercices qui doivent être faits de manière individuelle pour correspondre à la fois au niveau du stagiaire, mais également au projet professionnel qui est le sien. Et on sait très bien que les compétences à travailler ne sont pas forcément identiques d'un projet professionnel à un autre. Ensuite, l'après-midi, c'est là que l'on propose des thématiques ou des projets dans lesquels sont contextualisés l'apprentissage de compétences, puisque le réseau des écoles de la deuxième chance a basé son modèle pédagogique et son organisation pédagogique sur l'acquisition de compétences, des compétences qui sont transversales, transférables à tout secteur d'activité et qui vont permettre aux jeunes de qui ont, pour la plupart d'entre eux, comme dénominateur commun d'avoir été en échec scolaire, de travailler non pas des diplômes, mais de travailler des compétences qu'ils pourront réutiliser et valoriser dans un environnement professionnel futur. On a vraiment ce souci-là d'avoir une personnalisation qui passe principalement par le fait que chaque stagiaire dispose d'un référent formateur qui va être le chef d'orchestre, le fil conducteur de son parcours du premier jour au dernier jour, qui va s'assurer de la cohérence pédagogique, qui va s'assurer de la levée de ce qu'on appelle les freins périphériques, la santé, le logement, la mobilité, la gestion du budget, et qui va s'assurer aussi de la mise en œuvre du projet professionnel, à la fois à travers la réalisation de stage, mais aussi sur la recherche de solutions de sortie de parcours de l'E2C, organisme de formation ou employeur.
Donc ça veut dire que les personnes, alors je ne sais pas si le terme est exact, les enseignants à l'école de...
Les référents formateurs,
voilà, ils ont à la fois un rôle de prof, mais également un rôle d'assistant social pour permettre de répondre à cet accompagnement individualisé.
Effectivement, le métier nécessite une double compétence. Sur la partie de référence, on est vraiment sur un accompagnement individuel. Et comme je le disais, on travaille sur la levée des freins périphériques et sur la mise en œuvre du projet professionnel. Sur la partie de formateur, on est là sur de l'animation de temps pédagogique collectif avec l'apport de contenu pédagogique sur différents domaines. Aujourd'hui, on est sur un référentiel avec trois principaux supports pédagogiques, les compétences de base, les compétences professionnelles et les compétences de la vie quotidienne, dans lequel on retrouve les freins périphériques et les savoir-être. Donc effectivement, la fonction de référent formateur demande une transversalité et une polyvalence, puisque l'on va, pour reprendre vos termes, à la fois travailler les aspects sociaux, mais aussi les aspects professionnels et les aspects pédagogiques. À noter qu'aujourd'hui, l'E2C Isère est doté de personnes qui interviennent sur l'ensemble des sites et qui ont des missions, pour le coup, bien plus spécifiques. Nous avons actuellement une chargée de relations entreprise qui va travailler et s'attacher à nouer des contacts avec des entreprises et des organismes de formation sur le département au bénéfice des projets professionnels des stagiaires. Et nous avons une chargée d'accompagnement social qui, elle, va prendre en charge les problématiques sociales lourdes en complément de ce que peuvent faire les référents formateurs au quotidien.
Et parlons un petit peu de participation financière. Est-ce que passer donc ces plusieurs mois au sein d'une école de la deuxième chance, est-ce que ça coûte quelque chose? Est-ce qu'il y a une participation financière pour le stagiaire et sa famille?
Non. Le parcours est complètement gratuit puisqu'il est pris en charge par le conseil régional. Et comme certains d'entre eux ont dit tout à l'heure, le parcours est même rémunéré aujourd'hui selon des montants qui sont validés par le conseil régional. On est à 220 € pour des mineurs, on est à 520 € pour des majeurs, et l'allocation peut être majorée dans certains cas et monter à 730 € mensuellement. Donc le parcours est 100% gratuit, accessible à tous, et indemnisé, l'indemnité étant conditionnée à l'assiduité, toute absence étant enlevée de l'indemnité mensuelle. Nous avons des stagiaires engagés et assidus.
Ah ben oui, parce que la motivation, hein, c'est le moteur de tout. C'est ce qui est demandé avant tout, j'imagine, aux jeunes. Est-ce que cette indemnité peut se voir complétée par une autre forme de rémunération dans le cadre de l'alternance ?
Normalement, les stagiaires sont sortis de formation, sans emploi, pour intégrer l'E2C. Donc logiquement, il n'y a pas de cumul possible, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, l'intensité du parcours ne permet pas ou peu d'avoir une activité à côté. Mmh. Pour autant, nous ne demandons pas aux stagiaires de nous déclarer les ressources qui sont les leurs en parallèle de leur investissement et de leur parcours à l'E2C. Nous les considérons comme des professionnels, notamment qu'ils soient présents sur les emplois du temps qui sont les leurs de manière hebdomadaire. Ce qui se passe en dehors, quelque part, nous regarde moins, même si ça a de l'importance, puisque nous souhaitons avoir une approche globale dans l'accompagnement des parcours et que l'environnement fait partie aussi de ce qu'ils sont et du travail que nous avons à mener.
On va pas tarder de faire notre petite pause musicale dans le cadre de cette Voix de l'Emploi aujourd'hui. Peut-être une dernière question, Corentin, par rapport au fonctionnement de l'école de la deuxième chance. Dans le cadre de, on va dire, du système éducatif classique, l'éducation nationale, les établissements scolaires, eh bien, on l'entend année après année. Il y a toujours des revendications, il y a les traitements des professeurs qui posent problème, le nombre d'élèves par classe, etc. Est-ce que au sein des écoles de la deuxième chance, vous avez aussi certaines problématiques au niveau du fonctionnement qui nécessite une aide particulière de l'État ou d'autres structures?
Aujourd'hui, nous avons déjà de nombreux acteurs qui soutiennent le dispositif des écoles de la deuxième chance. L'État, bien évidemment, la région, bien évidemment, l'Europe, les collectivités locales, qui sont des soutiens précieux pour l'activité de l'école de la deuxième chance. C'est ce qui permet aussi que les parcours soient gratuits et pris en charge par les pouvoirs publics pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où la fréquentation de l'école de la deuxième chance est plutôt en augmentation. Nous avons des demandes importantes, parfois des délais d'attente qui commencent à être conséquents. Et donc, effectivement, nous sommes en demande de moyens supplémentaires au regard du possible développement de notre activité et du nombre de bénéficiaires que nous pourrions accompagner. Dire que nous avons des conditions de travail qui ne sont pas satisfaisantes aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Nous avons des bonnes conditions de travail, nos locaux sont agréables, l'équipe de référents formateurs est engagée, de qualité, disponible pour les stagiaires qu'elle accompagne. Par contre, nous avons aujourd'hui effectivement des demandes pour lesquelles nous ne pouvons pas donner de réponse positive immédiatement, faute de moyens supplémentaires. Mais la qualité de l'accueil est, me semble-t-il, aujourd'hui à un niveau satisfaisant, et les pouvoirs publics nous accompagnent dans ce sens.
Ouais. Est-ce que vous êtes en demande d'un effectif plus important, de nouveaux je ne sais plus le terme que vous avez utilisé.
Référents
formateurs.
Aujourd'hui, nous avons une équipe qui est complète sur le site de Grenoble. On fait face, comme n'importe quelle structure aujourd'hui, à quelques départs et quelques arrivées, mais ça, c'est la vie d'une entreprise, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, notre équipe de référents formateurs, encore une fois, est pleinement engagée dans sa mission qui est la sienne sur le site de Grenoble. Et nous n'avons pas de besoins particuliers. Pour autant, et ça fait le lien avec ce que je disais précédemment, si nous devions accueillir davantage de public, là, pour le coup, nous aurions besoin de moyens supplémentaires, à la fois en termes de salles de formation, mais également en termes de référents formateurs, puisque pour que l'accompagnement soit de qualité, nous limitons le nombre de jeunes par référent formateur, pour qu'on soit vraiment dans de l'individualisation et de la personnalisation du parcours de formation. Et on ne peut pas déroger à ce principe-là. Donc si les publics et le nombre de stagiaires qui bénéficient d'un accompagnement à l'E2C devaient augmenter, et aujourd'hui ça pourrait être le cas, nous aurions à ce moment-là effectivement besoin de moyens supplémentaires.
On va faire une pause musicale, si tout le monde est d'accord, dans le cadre de notre émission. Nous sommes en direct, c'est La Voix de l'Emploi sur News FM. Et aujourd'hui, nous parlons de l'école de la deuxième chance, l'E2C. Et notamment, on s'intéresse plus particulièrement, évidemment, à l'école de la deuxième chance de Grenoble. On se retrouve juste après une petite pause. À tout de suite.
Les sons en exclusivité. C'est que sur News FM.
Un peu de weed, un peu de whisky. Ce soir on chill, y'a pas de chiche. J'ride dans la ville, baby you miss me. Rejoins-moi vite, tu peux pas whisky. On peut s'éclipser, je t'emmènerai. Si t'es frileux, je te réchauffe pendant toute la noche. J'allume la Netflix, passe à l'adresse fixe. On fera ça net vite, c'est ça la technique, baby. Faut pas que ça se complique, si tu veux ce soir, call me. Je te raconte la suite, c'est toi sur moi dans le même lit. Dis à tes copines, t'es mort, t'es indisponible. Ça y est, c'est trop sweet, je te fais planer dans le cockpit. Viens, on commence la partie. Danse pour moi, ralentis, fais ça à la garde. Viens, show me love, me shawty. Quand tu wines contre moi, girl, donne tout, c'est parti. Viens, on commence la partie. Danse pour moi, ralentis, fais ça à la garde. Viens, show me love, me shawty. Quand tu wines contre moi, gueule, donne tous ses parts. Baby, m'y connais, nous t'es où, c'est pas si simple à nage. Donc si on veut vraiment, on peut faire partie du voyage. C'est toi la seule que je veux, les autres sont que de passage. Je regarde ton Insta et je vois bien que tu fais un carnage. Sur toi, je fais un blocage, j'arrête les dérapages. Sur Snap, trop de caméras, j'suis obligé de faire un nettoyage. Soleil avant l'orage, j'aime son côté sauvage. RDV sur la plage, devant moi, le plus beau des visages. Tella. Cette fois, dis à moins que ça ouvre là de moi. Tous les jours, je te veux auprès de moi. Près de moi, je suis ton boy, tu seras ma fraya. Fraya, hein. Oh là, ma belle, belle. J'aime trop comment tu s'appelles. Reste ici, car le coach est là. Terra, t'en fais pas, je serai ton umbrella. Terra, hein. Viens, on commence la partie. Danse pour moi, ralentis, fais ça à la cardi. Viens, show me love, me shawty. Quand tu wines contre moi, gueule, donne tout, c'est parti. Viens, on commence la partie. Danse pour moi, ralentis, fais ça à la cardi. Viens, show me love, me shawty. Quand tu wines contre moi, gueule, donne tout, c'est parti. Donne tout, c'est parti. Quand tu wines contre moi, gueule, donne tout, c'est parti. Donne tout, c'est parti. Quand tu viens contre moi. Un peu de weed, un peu de whisky. Ce soir on chill, y'a pas de chiche. J'ride dans la ville, baby you miss me. Rejoins-moi vite, tu peux pas faire. On peut s'éclipser, je t'emmènerai. Si t'es frileux, je te réchauffe pendant toute la noche. J'allume la Netflix, passe à l'adresse. C'est ça la technique.
La Voix de l'Emploi, c'est sur News FM. Vous écoutez effectivement La Voix de l'Emploi sur News FM 101.2. Nous sommes en direct et nous parlons aujourd'hui de l'école de la deuxième chance de Grenoble. Mais même si on s'intéresse un peu plus au site grenoblois, l'école de la deuxième chance, si vous étiez avec nous en première partie d'émission, vous l'avez compris, c'est un grand réseau à la fois en métropole, mais également sur tous les territoires, départements et territoires d'outre-mer. C'est une école ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans, éloignés de l'emploi et sans qualification ou avec peu de qualification. Et nos invités sont Corentin Ami, directeur de l'école de la deuxième chance de Grenoble. Nous avons Linda, Kautar, Clément et Tarek avec nous. Eh bien, c'est maintenant les jeunes qui vont s'exprimer un petit peu plus. Alors, je leur avais donné la parole tout à l'heure pour qu'ils nous expliquent comment ils avaient eu connaissance de l'école de la deuxième chance, qui leur avait donné envie d'intégrer, parce que voilà, il y avait quelque chose qui avait retenu leur attention. Donc ma première question, c'est une fois qu'il y a eu cette réunion d'info qui vous a fait vous décider, le premier contact. C'était qui, du coup, au sein de l'école de la deuxième chance? C'était la personne qui animait la réunion d'info, ou il y a eu un entretien, les petites évaluations au départ pour savoir qui vous êtes et quel est votre besoin? Linda, ton tout premier contact avec une personne de l'école de la deuxième chance, c'était qui?
C'était un des formateurs, il s'appelait Pierre, il nous a présenté l'école.
Voilà, donc c'était au moment de la réunion d'info, donc?
Oui.
D'accord.
Il était très sympa et très amical, on va dire. Ouais. Mais tout aussi professionnel.
Bah, tant mieux, c'est ce qu'on attend un petit peu aussi. Hein. Pour toi, comment ça s'est passé, le tout premier contact?
Alors, le tout premier contact, c'était une réunion d'information, comme on l'avait dit. Et après, chacun, ils nous ont donné un formateur qui va nous suivre pendant tout le parcours.
Bah, c'est le référent, donc.
Le référent, et du coup, pour moi, ça a été la référente Ludovine.
Et c'est important, cette désignation du référent, parce que vous allez avoir une relation assez privilégiée avec cette personne, hein, qui vous accompagne tout au long de ces 6-7 mois que vous allez passer à l'école de deuxième chance.
Oui, exactement. Elle connaît quasiment, après la fin de parcours, elle connaît quasiment tout, même la vie privée, etc. Si on a des problèmes, elle peut les gérer. On va dire que c'est un échange qui n'est pas vraiment comme à l'école, un prof de la distance. Il y a aussi un échange sur nos problématiques et ce qu'on doit traiter.
On continue donc avec les deux garçons pour qu'eux aussi nous expliquent comment vous avez vécu ce premier contact. Donc j'imagine que c'est pareil que les demoiselles, c'était ça. Avec cette fameuse réunion, puis ensuite désignation d'un référent. Donc pareil, tout de suite ça s'est... Ça s'est fait de manière naturelle et positive, ou on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une petite hésitation à un moment de se dire, bah, finalement, est-ce que je vais vraiment consacrer les prochains mois de ma vie à l'école de la deuxième chance ou pas?
Alors moi, au début, j'ai été très bien accueilli, il n'y a pas eu de souci avec ça. Ça venait vraiment de ma motivation et de mes capacités à suivre la formation, qui ont été vraiment compliquées et qu'il a fallu mettre en place. Mais le fait, comme on disait, d'avoir un référent, ça nous permet aussi de partager nos inquiétudes, ouais. Nos problèmes qu'on rencontre au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours et d'améliorer ça pour passer outre.
Tarek, le premier contact
avec ma référente.
Avec une personne, voilà, la personne de...
Franchement, moi, j'ai eu ma référente, elle s'appelle Coralie. Elle est très sympa, très gentille, très bien intentionnée. J'ai pas eu de problème, ça fait qu'un mois que je suis là-bas. Mais je peux le confirmer, ils sont très sympas, les référents.
Voilà, parce que je ne l'ai pas encore précisé. Effectivement, Tarek, toi, tu viens d'intégrer l'école de la deuxième chance.
Je fais partie du dernier groupe qui est rentré dans le 2C.
Voilà. Donc, Linda, toi, c'est ta dernière journée et tu auras terminé ce parcours-là. Un petit peu d'émotion, non? Comment on vit la fin de... Parce que je pose la question à toi, parce que les deux autres, hein, vous allez nous dire dans quelques instants combien de temps, parce que vous êtes sortis hein, de l'école de la deuxième chance. Linda, toi, comment tu vis ça, ces derniers moments? Tu aimerais que ça continue un peu, ou au contraire, tu te dis, allez, il faut que je passe à autre chose?
Je me dis que je peux passer à autre chose et que c'était une très bonne période. C'est grâce à ma référente Ludivine qui m'a conseillé de rejoindre une formation d'informatique, objectif numérique, et je vais y rentrer le 2, du coup lundi. C'est,
Pas de temps mort alors, hein?
Oui.
C'est bien.
C'était intense, j'ai appris beaucoup de choses, comme par exemple au tout début, je devais apprendre une lettre de motivation, un CV et des choses comme ça pour entrer dans le monde du travail. Après ces 5 semaines de rentrée, je passais un jury.
Il n'y a pas ce côté, ça fait 6-7 mois que je suis dans un certain rythme. Et j'aimerais que ça continue. C'est un petit cocon dans lequel on se sent bien, où on a pris ses repères. Toi, tu es quand même impatiente de passer à autre chose.
Oui,
et commencer
ça.
Cette formation.
Oui.
Kautar et Clément, alors vous êtes sortis de l'école de la deuxième chance il y a combien de temps ?
Je suis sortie en août.
Au mois d'août, donc c'est tout récent.
Tout récent.
Voilà, et Clément ?
Alors moi je suis sorti en mai de cette année aussi.
Ok, donc c'est pas si vieux que ça non plus. Oui. Et comme je le demandais à Linda, comment on vit cette transition, la fin de son passage à l'école de la deuxième chance ?
Alors je vais dire que c'est un mélange d'émotions, parce qu'il y a la tristesse de devoir quitter un endroit où on était vraiment bien, on était bien accompagnés, ils écoutaient nos besoins et tout, mais après on est vraiment triste. Parce que c'est vraiment, ça fait 8 mois que je suis dedans, j'ai pu faire des amis, des connaissances, vu que je suis venue d'Italie, je connaissais personne, et l'école de la deuxième chance m'a permis aussi d'avoir un cercle d'amis et de pouvoir intégrer la société française, mais aussi la tristesse, l'émotion qui est être content de pouvoir trouver un voie professionnelle, et du coup, pouvoir commencer une nouvelle étape de sa vie.
Bien sûr. Alors, Linda nous disait qu'elle elle va commencer une formation en informatique. Toi, qu'est-ce que c'est maintenant ?
Alors, moi, j'ai une formation en tant que conseillère bancaire avec le Crédit Agricole.
D'accord. Donc, après, tu vas pouvoir nous conseiller sur les placements et tout ça.
Oui, exactement.
Parfait. Et Clément, donc toi, la fin de l'école de la deuxième chance et la transition avec l'après, ça s'est bien passé ?
La fin s'est bien passée, oui. Ouais. Parce qu'on est satisfait de notre travail, on se sent soutenu dans le projet professionnel, même si on quitte l'école. Et même si on change de cadre et que c'est un peu difficile de se réadapter au début, c'est agréable de se rendre compte qu'on n'a pas travaillé pour rien et qu'on a vraiment un truc concret à la fin et dans lequel on peut se mettre à fond. C'était vraiment ça, mon ressenti à la fin.
Et qu'est-ce que tu fais maintenant ?
Je suis réparateur de smartphones.
Bien, c'est utile ça. Hein
ouais,
avec tous ces milliards de smartphones qu'il y a partout
pour
dans le monde,
ouais.
Le boulot, tu ne vas pas en manquer. Parfait. Quentin, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, juste pour compléter, je pense qu'on l'a compris en écoutant les témoignages de nos stagiaires actuels ou anciens. Le dossier n'est qu'une étape. N'est qu'un passage, n'est qu'un moment de vie entre une situation qui peut paraître parfois compliquée, complexe, en échec avant le dossier, et puis quelque chose qu'on espère être mieux à la sortie sur de l'emploi ou de la formation. On a vraiment cette conscience-là que les stagiaires ont un avant, ils auront un après, et que nous, on est là à un instant T, à un moment un peu charnière. On est une demi-marche pour leur permettre de passer à l'étape suivante de leur projet professionnel.
Bah justement, projet professionnel, et puis on va continuer. Du coup, on glisse sur ta REC, même si tu as tout commencé tout récemment, hein, depuis un mois, l'école de la deuxième chance. Toi, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire idéalement comme boulot ?
Une idée fixe, pas encore, mais j'ai quelques idées dans ma tête, comme la logistique, le BTP, le bâtiment, l'électricité, plombier, tout ce qui est comme ça. Moi, j'aime bien le bricolage, j'aime bien tout ce qui est comme ça. Et préparateur de commandes dans la logistique, ça aussi, ça m'intéresse.
Donc tu attends ça de l'école de la deuxième chance, que ça puisse justement te permettre de confirmer toutes ces envies et te donner les clés, les méthodes, les outils.
Parce que déjà, j'avais parlé à ma référente du projet de logistique et elle m'avait mis sur une visite à l'Aftral. Et j'avais vu que ça m'avait vraiment plu.
Et l'Aftral, c'est quoi ?
L'Aftral, c'est une société de transport et logistique.
D'accord.
Et j'ai pu tester et voir comment c'était. Et ça m'avait vraiment plu. Et du coup, ça m'aide un petit peu à me fixer sur ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Et c'est vraiment très bien pour ça. Mmh.
Clément, projet professionnel, c'est donc dans le domaine des smartphones, donc des télécommunications, de la technologie.
Alors, à la base, j'avais pas...
Alors, rapproche bien le micro de toi, tu vois, t'es toujours un peu trop loin.
Alors, oui, comme je disais, à la base, j'avais pas du tout ce projet-là. Je suis arrivé à l'EDC avec un projet de réparateur de vélo, plutôt.
Ouais.
Et au fur et à mesure du projet, où j'ai pu faire des stages et voir ce qui était vraiment le métier de réparateur, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi du tout. Donc, après, dans mon parcours, on a mis en place des projets, dont un projet jardin, dont un projet... de console rétro que j'avais mis en place avec mon référent, qui m'a permis de partir plus dans le domaine électronique. Et suite à ça, j'ai pu vraiment choisir quel domaine m'intéressait pour partir dans cette direction.
D'accord. Alors, Kaoutar, on a compris, donc c'est plutôt le domaine bancaire, hein, qui t'intéresse.
Oui, exactement.
C'est ça, ton projet professionnel.
C'était ça depuis le début et je suis vraiment contente d'avoir réalisé ce que je voulais. Et aussi grâce à l'E2C. Ouais. Sans eux, je serais encore dans la difficulté comme avant. Parce que été livrée à moi-même, j'ai pas pu réaliser ce que je voulais.
Ben surtout quand on vient aussi de l'étranger, parce que c'est déjà compliqué quand on est jeune français et que voilà, on s'est pas senti à sa place dans le milieu scolaire, que on se retrouve paumé un petit peu comme ça. Donc j'imagine que quelqu'un qui vient de l'étranger, et Tariq, c'est un peu pareil, toi qui viens d'Algérie, même si tu as la famille quand même qui t'aide, qui t'a reçu. Rappelle-nous, Kaoutar, toi, donc tu viens d'Italie. Quand Exactement. Tu es arrivé en France, c'était il y a combien de temps ?
C'était en 2020.
Donc c'était il y a trois ans.
Exactement.
Tu parlais déjà un peu français ou pas du tout ?
Un peu, j'en avais fait un petit peu en Italie D'accord. à l'école, mais j'étais pas vraiment, vraiment à l'aise.
Et oui, parce que la langue, là, c'est une barrière aussi qui est assez, assez énorme quand on arrive ici. Et alors, Linda, le projet professionnel, donc c'est plutôt dans le milieu de l'informatique, alors.
C'est ça.
Ouais.
Et après cette
Vas-y, rapproche-toi aussi du micro, t'es un peu trop loin.
Et après cette formation, je pense continuer avec eux pour d'autres formations qu'ils proposent, grâce à la première formation que j'aurai obtenue des compétences que je pourrais utiliser dans les prochaines formations qui seront proposées.
Ok. Mais l'informatique, c'est très large. C'est quoi qui t'intéresse plus particulièrement ?
La programmation.
Ok. Et pour des logiciels professionnels ou des jeux vidéo ou quoi ?
Pour l'instant, ça va être des sites web.
Des sites web, ok. Tu vas donc devenir programmatrice. Alors, c'est quoi ? C'est webmaster ou c'est pas le même genre de métier, webmaster et programmateur de sites web ?
Juste programmateur, pour l'instant.
Très bien. Bah, on fera peut-être appel à toi si on a des problèmes avec notre site. Et puis l'école de deuxième chance aussi. Non, vous devez avoir votre professionnel...
Oui, mais si on peut travailler avec des anciens stagiaires,
bah oui, faire travailler
les... satisfaisant.
Bah, absolument. Corentin, sur l'après école de la deuxième chance, est-ce qu'il y a un petit suivi quand même qui est fait des anciens quand ils sont sortis et combien de temps après
oui.
vous les suivez ?
Un des principes aussi forts et un de nos engagements vis-à-vis d'eux, c'est de pouvoir les suivre et les accompagner dans l'année qui suit leur sortie de parcours. C'est-à-dire qu'un stagiaire, pour reprendre les exemples de tout à l'heure, va rester 6 à 7 mois à l'E2C de manière active, intensive, sur les contenus pédagogiques et les stages, les périodes de stage qui sont proposées. Mais ensuite, dans l'année qui suit, et ça, quelle que soit la durée de son parcours à l'E2C, c'est-à-dire s'il reste 2 mois ou s'il reste 9 mois, dans l'année qui suit, on s'engage à le suivre, à sécuriser ce qui peut être sécurisé encore sur un démarrage d'emploi ou de formation, à clôturer... la résolution de difficultés autour du logement, de la santé, de la mobilité, si jamais elle reste encore à clôturer, et éventuellement à lui proposer des temps de rendez-vous individuels ou collectifs avec son référent, sa référente, ou des ateliers, des sorties, des activités, pour le maintenir dans une dynamique. Donc, dans l'année qui suit, il y a différents temps qui peuvent leur être proposés, qui sont plutôt à la carte, à la demande, selon les besoins. Mais effectivement, on ne laisse jamais sortir un jeune de l'E2C de manière sèche et sans suivi. Cette période d'un an, elle est primordiale pour nous. Et certains stagiaires s'en saisissent, d'autres moins. Mais on est là aussi pour répondre aux demandes qui nous sont formulées.
Mmh. D'autant que, comme on le disait, il y a une relation assez particulière qui doit se créer entre le stagiaire et son référent, sa référente. Une confiance qui s'est construite tout au long de ces mois. Donc j'imagine que oui, la rupture ne se fait pas comme ça brutalement.
Oui, oui. Effectivement, les stagiaires ont une relation privilégiée avec leur référent ou leur référente. Mais en parallèle de cela, ils ont à travailler et à côtoyer l'ensemble des professionnels de l'E2C Isère, que ce soit les personnes qui sont présentes sur les fonctions administratives, les personnes pédagogiques, les personnes de l'encadrement. Ces différentes interactions et ces différentes rencontres font que les stagiaires ont bien évidemment un référent ou une référente, mais sont accompagnés par une équipe pédagogique qui est conséquente, fournie de qualité et qui leur permet de prendre des compétences et des apports divers et variés et complémentaires les uns aux autres.
Un dernier tour de table avec vous, les jeunes, ex-stagiaires de l'E2C ou actuellement stagiaires, juste pour savoir ce que vous retenez, qu'est-ce qui a été le plus agréable, ce que vous avez préféré lors de ce passage. Alors Tarek, ça fait juste un mois que tu es là, mais déjà, qu'est-ce qui te plaît le plus là sur ce premier mois ?
Ce qui me plaît le plus, c'est la bonne entente entre les jeunes et la sympathie des référents et de tout le monde.
Donc plutôt l'ambiance, le climat,
ouais, l'ambiance.
Qui est agréable.
Plus ou moins.
Ouais, c'est vrai que ça compte, hein, c'est important de se sentir bien quand on s'engage comme ça sur un parcours de plusieurs mois. Clément, Kauta, Linda, qu'est-ce que vous avez préféré à l'E2C ?
Dans mon cas, ce qui a été le plus sécurisant, c'était vraiment qu'on était écouté. Que quand on parlait à notre formateur référent ou à d'autres formateurs, on n'avait pas le sentiment que de parler dans le vide et que derrière, les choses, elles avançaient vraiment. Mmh. Donc vraiment, cette relation de confiance, comme vous disiez tout à l'heure, qui se crée, et ça, c'est vraiment agréable.
D'accord. Kauta ?
Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait d'avoir fait deux projets. C'était le projet Fermé Sport. Ça m'a permis de faire du sport et aussi de me surpasser. Et parce que j'avais une peur de l'eau et j'ai pu faire de la piscine et aussi dépasser cette peur-là. Et je me suis vraiment sentie réalisée et courageuse après cela. Après, j'ai pu aussi partir en voyage, le projet Odysséade. On est parti au sud de la France. On était 40 Odyssées de France. Et on est parti, on a fait un entretien pour être choisi. On est parti trois garçons et trois filles. En total, on était six. Et on a pu passer une semaine au sud de la France en faisant des activités comme du sport et des soirées, etc. Et avec deux formatrices. Et c'était vraiment une opportunité pour moi de pouvoir visiter une autre région de France. Vu que j'ai pas grandi en France, j'habitais en Italie. Et aussi de nous rapprocher encore plus avec les formatrices, de les voir en dehors du cadre de l'E2C. Et ça, c'était vraiment chouette et c'est le meilleur souvenir que je vais garder pour toujours.
Donc on voit, Corentin, hein, que l'école de la deuxième chance, ça n'est pas que apprendre des compétences professionnelles, un savoir-faire, savoir-vivre en entreprise. Il y a aussi toujours des choses autour qui permettent de reprendre confiance en soi. Et ça peut être des activités sportives, vaincre sa peur de l'eau, comme vient de le dire Kauta. C'est des petites choses, mais finalement qui comptent aussi beaucoup.
Tout à fait. On a d'école que le nom. Et ça, je pense que c'est important que vos auditeurs l'aient en tête. On n'a pas un fonctionnement classique comme l'école dans le système scolaire. Et toutes les activités que l'on propose ont pour vocation de permettre aux stagiaires de reprendre confiance en eux, de mieux se connaître, de valoriser leur image d'eux-mêmes et de leur permettre de trouver leur voie. On est vraiment dans cette dynamique-là, bien évidemment leur voie professionnelle, mais aussi sociale, citoyenne, qu'ils se sentent pleinement intégrés dans la société, dans leur environnement, dans le territoire dans lequel ils évoluent, pour être le plus autonome et faire face aux réalités d'une vie, tout simplement.
Et Linda, alors, de ton côté, qu'est-ce que tu as préféré dans ton passage à l'école de la deuxième chance ? Qu'est-ce que tu retiens ? Le meilleur souvenir ?
Parce que mon meilleur souvenir, c'est que j'ai passé d'énormes bons moments avec ma référente. C'est vraiment une personne qui m'a vraiment accompagnée dans tout ce que j'avais en tête et qui m'a vraiment aidée par rapport au projet professionnel que j'avais. Et qu'elle m'a aussi aidée psychologiquement, comme quoi j'allais pas très bien et que maintenant ça va mieux.
Ok. Oui, Kauta ?
Je voulais aussi rajouter qu'on a à disposition une psychologue aussi, offert par l'E2C, et ça m'a vraiment aidée beaucoup. J'avais vraiment passé un moment difficile, et je trouve que c'est un point important pour pouvoir accompagner les jeunes, parce que des fois on a tous les moyens, mais psychologiquement on n'a pas de confiance, on a des problèmes, etc. Et avoir cette aide-là, ça m'a beaucoup aidée de trouver ma voie professionnelle.
Eh ben, merci à tous les quatre. Linda, Kautar, Clément, Tarek, d'être venus jusqu'à nous, d'avoir accepté de venir parler de vous, de votre parcours qui s'est terminé ou qui commence avec l'école de la deuxième chance. Corentin, vous vouliez revenir sur une petite info hein, avant qu'on se quitte.
Effectivement, vous précisez que au-delà de notre activité traditionnelle, classique, telle qu'il vous l'a été décrit par les stagiaires et par moi-même, on propose aussi ce qu'on appelle des parcours spécialisés, donc des parcours de formation thématiques sur des secteurs en tension avec des emplois à la clé. C'est une activité que l'on développe de plus en plus. On en a proposé dans les métiers de la fibre optique, sur l'infrastructure numérique, sur le maraîchage et l'espace vert. C'est des thématiques qui reviennent régulièrement. On essaye de cibler des secteurs en tension, de se positionner de manière complémentaire aux autres offres de formation qui existent. Voilà, c'est une de nos pistes de développement à l'école de la deuxième chance en Isère. Et on souhaite le mettre en valeur parce que ça produit de belles réussites également.
Et puis une chose aussi sur un petit détail qui a son importance et que j'ai un petit peu zappé, c'est au niveau du public, ces jeunes entre 16 et 25 ans que vous recevez, vous recevez aussi des jeunes en situation de handicap.
Tout à fait. On a environ 15 à 20% de jeunes qui sont en situation de handicap, ce qui nous oblige à travailler aussi de concert avec d'autres acteurs spécialisés dans ce champ-là. Mais notre pédagogie étant basée sur l'individualisation et la personnalisation des contenus, elle est particulièrement adaptée aussi au public en situation de handicap qui peuvent avoir des besoins spécifiques. Donc l'intégration est complète, les collectifs sont mixés selon les différents types de publics. Et c'est ce qui fait la richesse d'un parcours à l'EDC et qui forge les stagiaires à être plus armés pour leur vie future.
Alors pour s'informer, pour vous contacter, on parlait des locaux, on n'a pas précisé l'adresse. Vous êtes où sur Grenoble ?
On se trouve aux 8 rue Aimé Pupin. On est voisin de l'IMT, un autre centre de formation de l'agglomération grenobloise, donc sur le quartier du village olympique. On peut nous retrouver donc physiquement dans ces locaux-là. On a également un site internet, on a une page Facebook, un compte Twitter, Instagram, sur lequel on diffuse régulièrement des infos et où on valorise des parcours de stagiaires, où on valorise des projets qui sont menés, comme certains exemples vous ont été donnés. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à venir nous rencontrer. En dehors des temps d'information collective, nos portes sont bien évidemment ouvertes et vous trouverez toujours un professionnel pour vous renseigner et vous orienter vers le bon interlocuteur ou le bon créneau horaire si jamais vous souhaitez venir sur une information collective. N'hésitez pas à nous contacter si vous vous posez des questions et si vous souhaitez rentrer à l'école de la deuxième chance.
Voilà, tout est dit. Merci pour avoir passé cette heure avec nous, Corentin Ami, Tarek, Clément, Kautar, Linda. Bonne continuation à vous les jeunes dans vos projets.
Merci.
Bonne suite et puis bonne route à l'école de la deuxième chance. Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission de La Voix de l'Emploi sur News FM le mois prochain. Très bonne journée à toutes et à tous. Ciao. C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires.
News FM, depuis 1991, nous vous accompagnons en musique.